un certain nombre de choses, qui croit d'abord beaucoup en lui-même, et finalement pour lui, qui s'est rendu en Égypte, qui a vaincu sous les pyramides, qui est le seul conquérant quand même qui a conquis Moscou, si je puis dire, aller jusqu'à Bruxelles de Paris, c'est pas un trajet extraordinaire pour lui, d'autant que l'armée prussienne il l'a battu très sévèrement en 1806, et l'armée de Wellington est quand même très hétéroclite, il le sait. Alors ce n'est plus la grande armée, mais c'est son armée de vétérans, et bien il se pense en position de force, et que tout ça ne sera l'affaire que de quelques heures. Hein. Et d'ailleurs son plan au départ fonctionne, puisqu'il remporte une première victoire contre les Prussiens le 16 juin à Ligny. Alors le problème c'est que ses troupes ont manqué de coordination, le corps de Drouet d'Erlon n'est pas arrivé sur le champ de bataille, ce qui aurait achevé les Prussiens. Donc il les bat, il a l'avantage du terrain, mais il ne les a pas écrasés. Donc en fait ce qui fait qu'eux peuvent revenir dans le jeu et continuer la partie, si je puis dire. Si on voulait faire une petite modernité, on dirait que les Prussiens ne sont pas game over. Ils continuent le jeu et ont décidé, juste après la bataille, après leur défaite, eh bien, de revenir auprès des Anglais, dans ce à quoi Napoléon ne s'attend pas en fait. Hein. Et lui, si je puis dire, fonce tête baissée sur les Anglais en se disant c'est leur tour et en quelques heures je vais les détruire. Hein. Mais là, il va se tromper encore une fois lourdement. Hein. En fait, Napoléon pêche par excès d'optimisme, non pas, n'est pas diminué, en fait, il se surestime. C'est surtout ça son problème à ce moment-là.
Waterloo est une des plus célèbres batailles de l'histoire et une des plus grandes défaites de l'armée française. Une véritable tragédie.
La défaite de Waterloo, c'est une des défaites préférées des Français. On l'a souvent appelée la défaite glorieuse. Alors, bien sûr, ça n'est pas faux compte tenu de la légende qui entoure cette bataille, mais si nous restons le 18 juin 1815, c'est une catastrophe épouvantable. C'est-à-dire que non seulement l'armée napoléonienne est battue, et rappelons que c'est la seule armée en état de combattre dont il dispose, elle est battue, mais elle est totalement détruite. C'est une bataille qui, de toute façon, aurait coûté très très cher à l'armée française pour la suite des opérations. On perd son artillerie, les régiments sont complètement disloqués, c'est une fuite éperdue. Hein. Il faut voir les témoignages, notamment des poursuivants, des Anglais et des Prussiens, qui nous racontent à quel point la panique s'est saisie de l'armée française, où on ne savait plus comment fuir. Hein. Le passage des rivières est une espèce de capharnaüm épouvantable. Même Napoléon, d'ailleurs, a failli ne pas pouvoir rentrer en France. Donc, c'est véritablement, sur le plan militaire, un coup de tonnerre. Alors que Napoléon pensait détruire la seule armée anglaise, ce sont les Anglo-Prussiens qui ont détruit la seule armée française qui pouvait leur être opposée.
Quand les soldats comprennent que tout est perdu, c'est la panique dans les rangs et le sauve-qui-peut général. Le célèbre capitaine Jean-Roch Coignet, qui a participé à 16 campagnes napoléoniennes et 48 batailles, décrit la débâcle au soir du 18 juin dans ses mémoires.
Les soldats de tous les corps et de toutes les armes, marchant sans ordre, confondus, se heurtaient, s'écrasaient dans les rues de cette petite ville, fuyant la cavalerie prussienne. C'était à qui arriverait au plus vite de l'autre côté du pont sur la Dyle. Tout se trouvait renversé. Il était près de minuit. Au milieu de ce tumulte, aucune voix ne pouvait se faire entendre. Rien ne pouvait les calmer. Ils n'écoutaient personne. Les cavaliers brûlaient la cervelle de leurs chevaux. Des fantassins se la brûlaient pour ne pas rester au pouvoir de l'ennemi. Tous étaient pêle-mêle. Je me voyais pour la seconde fois dans une déroute pareille à celle de Moscou.
C'est la débandade. Alors après, ensuite, on passe à la légende.
Emmanuel de Waresquiel.
D'abord les morts. Hein. Moi, je me suis intéressé à Waterloo du côté des morts. Cette lune était sinistre sur la plaine, ce que raconte le merveilleux, extraordinaire passage de Victor Hugo dans Les Misérables. Lorsque Thénardier arrive sur le champ de bataille, le lendemain de la bataille, et détrousse et dépouille les morts. Hein. C'est comme ça que se noue le drame des Misérables. Et je n'ai regardé Waterloo personnellement, en écrivant ce récit des 100 jours, que le 19 juin et pas le 18 juin. Il y a eu tellement de livres qui ont été publiés sur la bataille de Waterloo. Je ne suis pas un historien militaire, donc je voulais en voir les conséquences. Alors je ne me souviens plus du nombre des dizaines de milliers de morts de Waterloo, mais c'est considérable. Sur un champ de bataille extrêmement étroit, hein, c'est 7 km de large, c'est vraiment pas grand-chose. Alors on pourra toujours parler des conditions climatiques, de la pluie, du fait que les boulets de canon de l'artillerie napoléonienne ne rebondissaient pas pour foucher les rangs anglais. On pourra toujours parler des conditions physiques de Napoléon. On pourra toujours parler du fait que Berthier, le major général de la Grande Armée, n'était pas présent, qu'il a fait défaut. On pourra toujours parler du non-doublement des estafettes et du fait que, précisément, Grouchy, qui avait battu en partie les Prussiens l'avant-veille, arrive trop tard pour remporter la décision le 18 juin à Waterloo. On pourra toujours parler de tout ça. Il n'en reste pas moins que c'est probablement l'une des défaites les plus cruelles de toute l'histoire militaire française, peut-être avec Sedan. La défaite n'en est pas moins cinglante. Après, elle est rattrapée, comme toujours en France, on a la défaite glorieuse, on a l'habitude. L'armée passe son temps à célébrer ses défaites. Sidi Ibrahim, Bazeille, Cameron, qui est quand même une défaite cuisante. Mais enfin, c'est une défaite glorieuse. On aime ça en France, les défaites glorieuses. Donc on invente des choses, on invente le mot de cinq lettres de Cambronne, qui aurait été jeté, et c'est surtout Victor Hugo qui l'invente, ce mot de cinq lettres, jeté au nom de la liberté à la face des rois de l'Europe et à la face de l'Ancien Monde. Mais tout ça, c'est la réinvention de la bataille. La réalité, c'est que cette bataille de Waterloo va profondément diviser les Français et qu'il faudra quasiment attendre Renan et le grand discours sur la nation prononcé à la Sorbonne en 1882 qui explique que c'est dans la défaite que les Français peuvent se réconcilier pour trouver une forme de réconciliation française. Mais Waterloo est un germe de division. Il y a d'un côté les glorieux combattants de Waterloo et de l'autre les traîtres qui n'y ont pas participé ou qui, au pire, étaient du côté des Anglais ou des Prussiens.
Ce bain de sang vient de sceller le sort de Napoléon. Il doit quitter le champ de bataille et dans sa course pour retourner le plus vite possible à Paris, humiliation supplémentaire, il est forcé d'abandonner sa berline aux ennemis. Sait-il que cette défaite cinglante va le forcer à abdiquer une seconde fois ou croit-il encore qu'il peut à nouveau dominer les événements ?
Prochain épisode, les dernières heures de l'Empire. De retour à Paris après la défaite de Waterloo, Napoléon s'obstine aveuglément. Il est convaincu qu'il peut encore lever une nouvelle armée alors qu'un million de soldats alliés se dirigent vers la France pour sceller son destin.
J'accablerai l'ennemi, mais il faut qu'on m'aide et qu'on ne m'étourdisse point. Tout peut se réparer encore. Écrivez-moi l'effet que cette horrible échauffourée aura produit à la Chambre, surtout du courage et de la fermeté. Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé. Si, au lieu de lever en masse et de mesures extraordinaires, on dispute, tout est perdu. L'ennemi est en France. J'ai besoin, pour sauver la patrie, d'être revêtu d'un grand pouvoir, d'une dictature temporaire.
Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série « Le crépuscule de l'aigle » consacrés aux dernières années de Napoléon sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.